Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer avec le Père José Willibald Michaud à Maritsou, la lecture cursive de l'Évangile de Jean. Alors souvenez-vous, nous avons dans les émissions précédentes parcouru le chapitre 19, le moment du jugement et puis de la mort de Jésus. Et le Père José a bien souligné plusieurs choses, plusieurs thèmes que je me plais à rappeler. Il y a toute une série de personnages qui vont en quelque sorte jusqu'au bout d'eux-mêmes. Pilate va jusqu'au bout de lui-même. Marie et Jean vont aussi jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et puis surtout peut-être Jésus qui va jusqu'au bout de cette soif et qui accomplit l'Écriture. Et puis, il y a ce moment de la mort de Jésus, et ce n'est pas le verbe mourir qui est utilisé, il rend l'esprit. Il a rendu la racine de lui-même, il a rendu le souffle. Ensuite, l'épisode du coup de lance, et puis l'épisode de la mise au tombeau. Et là, nous voyons apparaître Joseph d'Arimathie et Nicodème, qui manifestent un réel courage, puisque l'hostilité des autorités juives était évidente à ce moment-là. Et puis tout ceci se termine dans l'apaisement d'un jardin. Et le Père José, vous avez souligné que ce grand épisode de la Passion et de la mort commence dans un jardin, au début du chapitre 18 à Gethsémani, et se termine également ici dans un jardin, dans un tombeau tout neuf. Il y a quelque chose qui s'apaise en quelque sorte. Et puis nous allons entrer dans le chapitre 20. Dans le chapitre 20, il y a toute une série d'épisodes et je propose, Père José, que nous groupions les deux premiers épisodes. L'épisode dominé par Pierre et Jean dans un premier temps et puis la rencontre entre Jésus et Marie de Magdala. Alors, ce qui est très intéressant, ce sont ces trois acteurs, Marie de Magdala, Pierre et Jean. J'insiste aussi sur le fait, avant ma lecture, que manifestement dans ces textes, il y a une opposition entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans. Et il y a également aussi toute une série de verbes de mouvement. On va, on court, on va vers, Jésus va remonter vers son Père. Il y a toute une série de verbes de mouvement qui sont vraiment déclinés de différentes façons. Voilà. Alors, je lis le chapitre 20 du verset 1 au verset 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là, et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'Écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête, l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabbouni », ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Père José, nous retrouvons toute cette dynamique du dedans, du dehors, cette course et puis cette entrée. Mais commençons peut-être par le tout début. C'est le premier jour de la semaine à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre. C'est ce moment tout à fait particulier. C'est la fin de la nuit. Il y a quelque chose qui naît, qui est en train de naître.
Il y a deux choses qui sont en train de naître. La lumière qui naît et la pierre enlevée. Une lourde pierre, l'obstacle, ce qui fait obstacle à tout et à la fois. Et cette pierre est enlevée. Je trouve que le détail est important. Mais alors, Marie se contente de ce premier constat. Et elle court trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple et leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où l'ont mis. Et je trouve que c'est la première définition de l'événement de la résurrection. On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas. Ce sont deux éléments importants. Alors Pierre et Jean partent en courant. Le fait que l'autre disciple court plus vite, évidemment il est plus jeune, mais les mouvements de Jean sont intéressants. Il se penche, arrivé au tombeau, et ce mouvement on va le retrouver chez Madeleine aussi. Elle se penche et voit les bandelettes posées à terre, mais il n'entre pas. Donc Jean reste au bord du mystère. Mais Simon-Pierre entre résolument dans le tombeau. Il voit les bandelettes posées à terre, ainsi que le linge qui reposait sur sa tête. Et ce dernier n'était pas posé avec les bandelettes, mais roulé à part dans un autre endroit. Pourquoi ces détails ? Je crois que ici, l'évangéliste veut nous faire participer à cette progression du cheminement des apôtres. Ils sont affolés, ils courent, mais ils restent en dehors. Pierre avance un peu plus. Mais alors, les premiers signes qu'ils découvrent de l'événement de la résurrection, c'est ce qui a accompagné la mort de Jésus, les bandelettes et le linge. Et avec l'insistance sur le fait que ce sont bien les rites de funérailles juives. Alors, Pierre, qui était entré, reste un peu dans sa stupeur, alors que Jean se décide à entrer. On ne dit de lui que ces deux mots extraordinaires, il vit et il crut. Que voit-il? Des bandelettes, mais ça lui suffit pour croire. Jean est le premier croyant dans la résurrection. C'est le premier.
Mais il voit les choses, comme Pierre d'ailleurs, mais il voit les choses de l'intérieur, du dedans.
C'est ça. Donc il passe du dehors au dedans, sûrement. Mais il vit et il crut, et l'évangéliste continue, car il n'avait pas encore compris que, d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ce premier récit très sobre de l'événement de la résurrection est tout à fait impressionnant. Et le mouvement que vous signalez, ce passage du dehors au dedans, est important pour nous aussi. Et vous avez souligné qu'il y avait du mouvement dans tout ce récit, et il me semble que le mouvement, c'est ce qui définit l'Esprit Saint, dont on va parler en finale. L'Esprit Saint, il est le mouvement de Dieu.
Ce qui me frappe aussi, c'est ce que vous avez souligné tout à l'heure, c'est ce mouvement, ce passage de l'affolement à un apaisement. Or, dans le discours après la scène, Vous avez dit à quel point, au chapitre 15 et 16, les apôtres sont affolés parce qu'ils sentent évidemment que l'étau se resserre autour de Jésus. Et Jésus les mène petit à petit vers une compréhension plus approfondie. Or ici, effectivement, ils sont de nouveau affolés, ils sont bouleversés véritablement, ils sont en train d'aborder quelque chose de complètement nouveau, de tout à fait inouï, et petit à petit alors le récit les conduit en quelque sorte vers cet acte de foi. Alors cet acte de foi, Père José, c'est tout de même sur le vide, il y a un vide signifiant en quelque sorte, c'est le vide.
Mais ça, je crois que c'est fondamental pour notre foi. Notre foi traverse un vide. Il y a une très belle antienne dans la liturgie qui dit « Quoi que nous ne te voyons pas, nous te savons présent. » Ce point de départ de la foi, le vide, le creux, presque la négation, il est fondamental pour nous tous.
Il y a ici l'expérience du vide.
Oui, tout à fait. Mais d'un vide plein. Et Marie va combler ce vide. Enfin, Marie va faire l'expérience d'un cheminement plus profond.
Et plus profond, et nous allons le voir, plein de tendresse aussi.
Ah, sûrement, c'est plein de sensibilité. Oui, on peut y aller.
Alors, ce vide, Père José, ce vide, on le retrouve au début de l'épisode suivant. Marie était restée dehors, elle pleurait, elle a vu deux anges, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il y a ce vide entre ces deux anges, ces deux anges sont à la tête et aux pieds. Entre les deux, il y a le corps manquant, en quelque sorte, et c'est ça qui est intéressant.
Mais je trouve que ça vaut la peine de s'arrêter à ça. Je me suis intéressé à interroger longtemps sur le sens de ce détail. Et puis, un jour, peut-être en lisant l'Ancien Testament, je suis tombé sur la description du Saint des Saints dans le Livre des Rois. Et dans le Saint des Saints est décrit comme ceci. Il y a l'arche, le signe premier de l'Alliance, et l'arche qui a au fond la taille d'un cercueil. Et l'arche était recouverte par une plaque d'or et encadrée à ses deux bouts par deux anges aux ailes déployées qui protégeaient de leurs ailes cette arche. et l'un à la tête et l'autre au pied de l'arche. Et je me suis dit, mais alors, la foi d'Israël, la foi traditionnelle d'Israël, situait la présence de Dieu dans le vide encadré par les deux anges. Et c'est ça qui m'a frappé. Je me suis dit, mais est-ce que ce n'est pas cette scène-là que Madeleine est en train de revivre ?
Et au fond, le vide, est-ce que le vide n'est pas en train de nous dire que la vie est ailleurs, plus loin, dans l'invisible ?
Dans la traversée du vide, en tout cas. Il y a, dans cette mention du vide, le rappel que Dieu est insaisissable, on ne peut pas se refermer sur lui, mais qu'il est présent dans l'absence. Il est présent dans le vide. Et je me demande si ce n'est pas la première expérience, la première étape du cheminement de Madeleine, cette vision d'un vide habité, un vide encadré, et au centre duquel il y a une présence. Les anges, la vision, la questionnent en disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi pleures-tu ?» Et elle répète « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et que je ne sais où on l'a mis. » La vision de ce vide s'accompagne chez elle d'une grande incertitude, d'un manque. Elle confesse simplement son désarroi devant ce vide, mais elle a senti qu'il y avait une présence en lui.
Et je me plais à souligner encore un lien entre ce passage et le discours après la scène. Vous avez souvent dit, Père José, que Jésus annonce une nouvelle présence. Bien, c'est sûr. La présence de l'Esprit. Mais c'est une présence en quelque sorte non saisissable et invisible. C'est, oui, c'est la promesse d'une présence. Et donc ici, il y a, me semble-t-il, une résonance. Je vais profiter de ce mot résonance pour vous proposer une petite pause musicale, Père José. D'accord. Avec un extrait d'une sonate de Schubert. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 20 de Saint Jean. Nous sommes dans cette rencontre entre Marie de Magdala et Jésus. Le Père José a déjà souligné à quel point l'image des deux anges, qui sont l'un à la tête, l'autre aux pieds, lui faisait penser à la description de ce vide qui est intéressant dans l'Arche d'Alliance. Et puis, bien entendu, il y a cette question: pourquoi pleures-tu, disent les anges, et elle répond de façon affolée: on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Elle est tout à fait bouleversée, elle cherche, et il y a une progression ici vers ce moment sublime qui va venir un petit peu plus loin. Les questions, Père José, qu'est-ce que l'on peut en dire? Pourquoi pleures-tu?
Je crois que Marie... C'est très important de souligner pas à pas toutes les étapes du cheminement de Marie. Donc, elle est restée au dehors, elle est entrée dans le tombeau, elle a une vision qui lui suggère une présence au centre du vide, mais une présence encore anonyme. Elle ne sait pas. « Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Au fond, pour l'instant, Marie est encore dans la logique de la mort et la seule chose qu'elle demande, c'est de pouvoir retrouver le corps mort de Jésus. Et c'est alors que Jésus reprend de façon centrale la parole en lui disant ce qu'elle a de plus profond. Marie, le nom de son cœur, son identité profonde et en même temps sa tendresse tourmentée. Alors, il est noté dans le texte ici que se retournant, Marie est curieusement deux fois retournée d'après le texte grec, mais je ne crois pas qu'elle fait un tour complet. Elle est retourner chaque fois à un stade plus profond.
C'est le sens symbolique, en quelque sorte. Oui, on est véritablement bouleversé et elle comprend.
Elle est retournée. Et alors, en réponse à l'appel de Jésus, Marie, qui la révèle à elle-même, lui dit qu'elle est rejointe. Elle lui dit en hébreu, donc « Rabbouni ». Et je me permets de compléter. En fait, Rabbouni, c'est mon maître à moi. Il y a Rabbi et Ouni, la désinence qui indique la possession. Donc, un cri d'émerveillement, mais encore possessif.
On peut supposer d'ailleurs qu'il y a un élan de tendresse, puisque Jésus lui dit juste après « ne me retiens pas ». Donc il y a ce moment tout à fait beau d'ailleurs.
Très beau. Rabbouni, mon maître à moi, donc un cri possessif vis-à-vis duquel Jésus reprend une petite distance en disant « ne me retiens pas ainsi ». La traduction permet de dire ainsi, donc, c'est-à-dire d'une façon possessive, enfermante.
Et ici, je pense qu'il y a un peu ce que vous considérez comme un sommet, et c'est là-dessus que nous allons déjà nous quitter pour aujourd'hui. « Ne me retiens pas ainsi, car je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Vous avez déjà souligné depuis longtemps dans notre lecture cursive à quel point Jésus est descendu et puis remonte vers le ciel.
Jésus redevient ce qu'il est fondamentalement, notre chemin d'ascension.
C'est là-dessus que je vous propose d'arrêter, Père José. Nous allons revenir là-dessus dans la prochaine émission et l'approfondir. Un grand merci à vous et nous nous quittons, chers auditeurs, avec Franz Schubert de nouveau, un extrait de sa sonate en La majeure. Merci à vous, Père José,
merci.
À tous, au revoir et à bientôt.